Les frères Karamazov, livre 11, chapitre 9. Le diable. Hallucination d'Ivan Fiodorovitch. Je ne suis pas médecin, et pourtant je sens que le moment est venu de fournir quelques explications sur la maladie d'Ivan Fiodorovitch. Disons tout de suite qu'il était à la veille d'un accès de fièvre chaude, la maladie ayant fini par triompher de son organisme affaibli. Sans connaître la médecine, je risque cette hypothèse qu'il avait peut-être réussi, par un effort de volonté, à conjurer la crise, espérant bien entendu y échapper. Il se savait souffrant, mais ne voulait pas s'abandonner à la maladie dans ces jours décisifs, où il devait se montrer, parler hardiment, se justifier à ses propres yeux. Il était allé voir le médecin mandé de Moscou par Catherine Ivanovna. Celui-ci, après l'avoir écouté et examiné, conclut à un dérangement cérébral et ne fut nullement surpris d'un aveu qu'Ivan lui fit pourtant avec répugnance. « Les hallucinations sont très possibles dans votre état, mais il faudrait les contrôler. D'ailleurs, vous devez vous soigner sérieusement, sinon cela s'aggraverait. » Mais Ivan Fiodorovitch négligea ce sage conseil. « J'ai encore la force de marcher. Quand je tomberai, me soignera qui voudra. » Il avait presque conscience de son délire et fixait obstinément un certain objet sur le divan en face de lui. Là apparut tout à coup un individu. Entré Dieu sait comment, car il n'y était pas à l'arrivée d'Ivan Fiodorovitch après sa visite à Smerdiakov. C'était un monsieur, ou plutôt une sorte de gentleman russe, qui frisait la cinquantaine, grisonnant un peu, les cheveux longs et épais, la barbe en pointe. Il portait un veston marron de chez le bon faiseur, mais déjà élimé, datant de 3 ans environ et complètement démodé. Le linge, son long foulard, tout rappelait le gentleman chic, mais le linge, à le regarder de près, était douteux, et le foulard fort usé. Son pantalon à carreaux lui allait bien, mais il était trop clair et trop juste, comme on n'en porte plus maintenant. De même son chapeau, qui était en feutre blanc malgré la saison. Bref, l'air comme il faut et en même temps gêné. Le gentleman devait être un de ces anciens propriétaires fonciers qui fleurissaient au temps du servage. Il avait vécu dans le monde, mais peu à peu, appauvri après les dissipations de la jeunesse et la récente abolition du servage, il était devenu une sorte de parasite de bonne compagnie, reçu chez ses anciennes connaissances à cause de son caractère accommodant et à titre d'homme comme il faut, qu'on peut admettre à sa table en toute occasion, à une place modeste toutefois. Ces parasites, au caractère facile, sachant compter, faire une partie de cartes, détestant les commissions dont on les charge, sont ordinairement veufs ou vieux garçons. Parfois ils ont des enfants, toujours élevés au loin, chez quelques tantes dont le gentleman ne parle presque jamais en bonne compagnie, comme s'il rougissait d'une telle parenté. Il finit par se déshabituer de ses enfants, qui lui écrivent de loin en loin, pour sa fête ou à Noël, des lettres de félicitations auxquelles il répond parfois. La physionomie de cet hôte inattendu était plutôt affable que débonnaire, prête aux amabilités suivant les circonstances. Il n'avait pas de montre, mais portait un lorgnon en écaille, fixé à un ruban noir. Le méduse de sa main droite s'ornait d'une bague en or massif, avec une opale bon marché. Ivan Fiodorovitch gardait le silence, résolu à ne pas entamer la conversation. Le visiteur attendait, comme un parasite, qui, venant à l'heure du thé, tenir compagnie au maître de la maison, le trouve absorbé dans ses réflexions et garde le silence, prêt toutefois à un aimable entretien, pourvu que le maître l'engage. Tout à coup, son visage devint soucieux. « Écoute, » dit-il à Ivan Fiodorovitch, « excuse-moi, je veux seulement te faire souvenir que tu es allé chez Smerdiakov afin de te renseigner au sujet de Catherine Ivanovna et que tu es parti sans rien savoir. Tu as sûrement oublié. » « Ah oui, » dit Ivan préoccupé, « j'ai oublié. N'importe d'ailleurs, remettons tout à demain. À propos, » dit-il avec irritation au visiteur, « c'est moi qui ai dû me rappeler cela tout à l'heure, car je me sentais angoissé à ce sujet. Suffit-il que tu aies surgi pour que je croie que cette suggestion me vient de toi ?»«
Eh bien, ne le crois pas, » dit le gentleman en souriant d'un air affable.
« La foi ne s'impose pas. D'ailleurs, dans ce domaine, les preuves même matérielles sont inefficaces. Thomas a cru parce qu'il voulait croire, et non pour avoir vu le Christ ressuscité. Ainsi, les spirites, je les aime beaucoup. » Imagine-toi qu'ils croient servir la foi parce que le diable leur montre ses cornes de temps en temps. C'est une preuve matérielle de l'existence de l'autre monde.
L'autre monde démontré matériellement, en voilà une idée.
Enfin, cela prouverait l'existence du diable, mais non celle de Dieu. Je veux me mettre d'une société idéaliste pour leur faire de l'opposition.
Écoute, dit Ivan Fiodorovitch en se levant. « Je crois que j'ai le délire. Raconte ce que tu veux, peu m'importe. Tu ne m'exaspéreras pas comme alors. Seulement, j'ai honte. Je veux marcher dans la chambre. Parfois, je cesse de te voir, de t'entendre. Mais je devine toujours ce que tu veux dire, car c'est moi qui parle, et non pas toi. Mais je ne sais pas si je dormais la dernière fois ou si je t'ai vu en réalité. Je vais m'appliquer sur la tête une serviette mouillée. Peut-être te dissiperas-tu. »
Ivan alla prendre une serviette et fit comme il disait. Après quoi, il se mit à marcher de long en large.
« Ça me fait plaisir que nous nous tutoyons, » dit le visiteur.
« Imbécile, crois-tu que je vais te dire vous ? Je me sens en train. Si seulement je n'avais pas mal à la tête. Mais pas tant de philosophie que la dernière fois. Si tu ne peux pas déguerpir, invente au moins quelque chose de gai. Dis-moi des cancans, car tu n'es qu'un parasite. »
« Quel cauchemar tenace! Mais je ne te crains pas. Je viendrai à bout de toi. On ne m'internera pas. »
« C'est charmant, parasite.
C'est mon rôle, en effet. Que suis-je sur terre, sinon un parasite?
À propos, je suis surpris de t'entendre. Ma foi, tu commences à me prendre pour un être réel, et non pour le produit de ta seule imagination, comme tu le soutenais l'autre fois. »
« Je ne t'ai jamais pris un seul instant pour une réalité !»
s'écria Ivan avec rage. « Tu es un mensonge, un fantôme de mon esprit malade. Mais je ne sais comment me débarrasser de toi. Je vois qu'il faudra souffrir quelque temps. Tu es une hallucination, l'incarnation de moi-même, d'une partie seulement de moi, de mes pensées et de mes sentiments, mais des plus vils et des plus sots. À cet égard, tu pourrais même m'intéresser si j'avais du temps à te consacrer. »
Je vais te confondre. Tantôt, près du réverbère, quand tu es tombé sur Alyosha en lui criant
« Tu l'as appris de lui ?»«
Comment sais-tu qu'il vient me voir ?
C'est de moi que tu parlais. Donc, tu as cru un instant que j'existais réellement ?»
dit le gentleman avec un sourire mielleux.
« Oui, c'était une faiblesse, mais je ne pouvais croire en toi. Peut-être la dernière fois t'ai-je vu seulement en songe et non en réalité. »
« Et pourquoi as-tu été si dur avec Alyosha ? Il est charmant. J'ai des torts envers lui à cause du Staré Zosim. »
« Comment oses-tu parler d'Alyosha, canaille ? »
dit Ivan en riant.
« Tu m'injures en riant, bon signe. D'ailleurs, tu es bien plus aimable avec moi que la dernière fois, et je comprends pourquoi. Cette noble résolution... »«
Ne me parle pas de ça !»
cria Ivan furieux. « je comprends, c'est noble, c'est charmant. Tu vas demain défendre ton frère. Tu te sacrifies. C'est chevaleresque.
Tais-toi, sinon gare au coup de pied. »
« En un sens, ça me fera plaisir, car mon but sera atteint. Si tu agis ainsi, c'est que tu crois à ma réalité. On ne donne pas de coup de pied à un fantôme. » « Trêve de plaisanterie. Tu peux m'injurier, mais il vaut mieux être un peu plus poli. » Même avec moi.
Imbécile, canaille, quelles expressions!
En t'injuriant, je m'injurie. Toi, c'est moi-même, mais sous un autre museau. Tu exprimes mes propres pensées, et tu ne peux rien dire de nouveau.
Si nos pensées se rencontrent, cela me fait honneur, dit gracieusement le gentleman.
Seulement, tu choisis mes pensées les plus sottes. Tu es bête et banale. Tu es stupide. Je ne puis te supporter.
« Que faire, que faire ?» murmura Ivan entre ses dents.
« Mon ami, je veux pourtant rester un gentleman et être traité comme tel, » dit le visiteur avec un certain amour-propre, d'ailleurs conciliant, débonnaire. « Je suis pauvre, mais je ne dirais pas très honnête. Cependant, on admet généralement comme un axiome que je suis un ange déchu. Ma foi, je ne puis me représenter comment j'ai pu, jadis, être un ange, si je l'ai jamais été. » Il y a si longtemps que ce n'est pas un péché de l'oublier. Maintenant, je tiens uniquement à ma réputation d'homme comme il faut, et je vis au hasard, m'efforçant d'être agréable. J'aime sincèrement les hommes. On m'a beaucoup calomnié. Quand je me transporte sur la terre, chez vous, ma vie prend une apparence de réalité, et c'est ce qui me plaît le mieux. Car le fantastique me tourmente comme toi-même. Aussi j'aime le réalisme terrestre. Chez vous, tout est défini. Il y a des formules, de la géométrie. Chez nous, ce n'est qu'équation indéterminée. Ici, je me promène, je rêve. J'aime rêver. Je deviens superstitieux. Ne ris pas, je t'en prie. J'aime aller au bain public. Imagine-toi, être à l'étuve avec les marchands et les popes. Mon rêve, c'est de m'incarner, mais définitivement, dans quelque marchande obèse et de partager toutes ses croyances. Mon idéal, c'est d'aller à l'église et d'y faire brûler un cierge, de grand cœur ma parole. Alors mes souffrances prendront fin. J'aime aussi vos remèdes. Au printemps, il y avait une épidémie de petites véroles. Je suis allée me faire vacciner. Si tu savais comme j'étais content, j'ai donné 10 roubles pour nos frères slaves. Tu ne m'écoutes pas? Tu n'es pas dans ton assiette aujourd'hui. » Le gentleman fit une pause. « Je sais que tu es allé hier consulter ce médecin. Eh bien, comment vas-tu? Que t'a-t-il dit? » « Imbécile! En revanche, tu as beaucoup d'esprit. Tu m'injuries de nouveau. Ce n'est pas par intérêt que je te demandais cela. Tu peux ne pas répondre. Voilà mes rhumatismes qui me reprennent. » « Imbécile! Tu y tiens! Je me souviens encore de mes rhumatismes de l'année dernière. Le diable des rhumatismes! Pourquoi pas? Si je m'incarne, il faut en subir toutes les conséquences. Satanas sum et nihil humani ame alienum puto. Comment, comment? Satanas sum et nihil humani. Ce n'est pas bête pour le diable. Je suis heureux de te plaire enfin. » « Cela ne vient pas de moi, » dit Ivan. « Cela ne m'est jamais venu à l'esprit. »« Étrange. »« C'est du nouveau, n'est-ce pas? Cette fois, je vais agir loyalement et t'expliquer la chose. »« Écoute. Dans les rêves, surtout durant les cauchemars qui proviennent d'un dérangement d'estomac ou d'autre chose, l'homme a parfois des visions si belles, des scènes de la vie réelle si compliquées, il traverse une telle succession d'événements aux péripéties inattendues, depuis les manifestations les plus hautes jusqu'aux moindres bagatelles, que, je te le jure, Léon Tolstoï lui-même ne parviendrait pas à les imaginer. Cependant, ces rêves viennent non à des écrivains, mais à des gens ordinaires, fonctionnaires, feuilletonistes, pop. Un ministre m'a même avoué que ses meilleures idées lui venaient en dormant. Il en est de même maintenant. Je dis des choses originales qui ne te sont jamais venues à l'esprit, comme dans les cauchemars. Cependant, je ne suis que ton hallucination. Tu radotes! Comment tu veux me persuader que tu existes et tu prétends toi-même être un songe? Mon ami, j'ai choisi aujourd'hui une méthode particulière que je t'expliquerai ensuite. Attends un peu. Où en étais-je? « Ah oui, j'ai pris froid, mais pas chez vous, là-bas. »« Ouh, là-bas ! Dis donc, resteras-tu encore longtemps ?» s'écria Ivan presque désespéré. Il s'arrêta, s'assit sur le divan, se prit de nouveau la tête entre les mains. Il arracha la serviette mouillée et la jeta avec dépit. « Tu as les nerfs malades !» insinua le gentleman d'un air dégagé mais amical. « Tu m'en veux d'avoir pris froid ?» Cela, cependant, m'est arrivé de la façon la plus naturelle. Je courais à une soirée diplomatique, chez une grande dame de Pétersbourg qui jouait les ministres, en habit, cravate blanche, gantée. Pourtant, j'étais encore, Dieu sait tout, et pour arriver sur la Terre, il fallait franchir l'espace. Certes, ce n'est qu'un instant, mais la lumière du soleil met 8 minutes, et j'étais en habit et gilet découvert. Les esprits ne gèlent pas, mais puisque je m'étais incarné... Bref, j'ai agi à la légère, je me suis aventuré. Dans l'espace, dans les terres, dans l'eau, il fait un froid, on ne peut même pas appeler cela du froid. 150 degrés au-dessous de zéro. On connaît la plaisanterie des jeunes villageoises. Quand il gèle à 30 degrés, elle propose à quelques niais de lécher une hache. La langue gèle instantanément, le niais s'arrache la peau. Et pourtant, ce n'est que 30 degrés. À 150 degrés, il suffirait, je pense, de toucher une hache avec le doigt pour que celui-ci disparaisse. Si seulement il y avait une hache dans l'espace.
« Mais est-ce possible ?»
interrompit distraitement Ivan Fiodorovitch. Il luttait de toutes ses forces pour résister au délire et ne pas sombrer dans la folie.
« Une hache ?» répéta le visiteur avec surprise.
« Mais oui, que deviendrait-elle là-bas »
s'écria Ivan avec une obstination rageuse.
« Une hache dans l'espace ? Quelle idée ! Si elle se trouve très loin de la Terre, je pense qu'elle se mettra à tourner autour sans savoir pourquoi, à la manière d'un satellite. Les astronomes calculeront son lever et son coucher. Gatsouk la mettra dans son almanach. Voilà tout.
Tu es bête, horriblement bête. Fais des mensonges plus spirituels ou je ne t'écoute plus. Tu veux me vaincre par le réalisme de tes procédés, me persuader de ton existence. Je n'y crois pas.
Mais je ne mens pas. Tout cela est vrai. Malheureusement, la vérité n'est presque jamais spirituelle. Je vois que tu attends de moi quelque chose de grand, de beau peut-être. C'est regrettable, car je ne donne que ce que je peux.
Ne fais donc pas le philosophe, espèce d'âne.
Mais comment puis-je philosopher quand j'ai tout le côté droit paralysé qui me fait geindre? J'ai consulté la faculté. Ils savent diagnostiquer à merveille, vous expliquent la maladie, mais sont incapables de guérir. Il y avait là un étudiant enthousiaste. « Si vous mourez, m'a-t-il dit, vous connaîtrez exactement la nature de votre mal. » Ils ont la manie de vous adresser à des spécialistes. « Nous nous bornons à diagnostiquer. Allez voir un tel, il vous guérira. » On ne trouve plus du tout de médecin à l'ancienne mode qui traitait toutes les maladies. Maintenant, il n'y a plus que des spécialistes qui font de la publicité. Pour une maladie du nez, on vous envoie à Paris, chez un grand spécialiste. Il vous examine le nez. « Je ne puis, dit-il, guérir que la narine droite, car je ne traite pas les narines gauches, ce n'est pas ma spécialité. Allez à Vienne, il y a un spécialiste pour les narines gauches. » Que faire? J'ai recouru au remède de bonne femme. Un médecin allemand me conseilla de me frotter après le bain avec du miel et du sel. J'allais au bain pour le plaisir et me barbouillais en pure perte. En désespoir de cause, j'ai écrit au comte Mattei à Milan. Il m'a envoyé un livre et des globules. Que Dieu lui pardonne. Imagine-toi que l'extrait de malt de Hoff m'a guéri. Je l'avais acheté par hasard, j'en ai pris un flacon et demi et tout a disparu radicalement. J'étais résolu à publier une attestation. La reconnaissance parlait en moi. Mais ce fut une autre histoire. Aucun journal ne voulut l'insérer.
« C'est trop réactionnaire, me dit-on. Personne n'y croira. Le diable n'existe point. Publiez cela anonymement. »
« Mais qu'est-ce qu'une attestation anonyme ? » J'ai plaisanté avec les employés. « C'est en Dieu, disais-je, qu'il est réactionnaire de croire à notre époque. Mais moi, je suis le diable. »
« Bien sûr, tout le monde y croit. »
« Pourtant, c'est impossible. Cela pourrait nuire à notre programme. À moins que vous ne donniez à la chose un tour humoristique. »
« Mais alors, pensais-je, ce ne sera pas spirituel ?»
Et mon attestation ne parut point. Cela m'est arrivé sur le cœur. Les sentiments les meilleurs, tels que la reconnaissance, me sont formellement interdits par ma position sociale.
« Tu retombes dans la philosophie ?» dit Ivan les dents serrées.
Que Dieu m'en préserve. Mais on ne peut s'empêcher de se plaindre parfois. Je suis calomnié. Tu me traites à tout moment d'imbécile. On voit bien que tu es un jeune homme. Mon ami, il n'y a pas que l'esprit.
j'ai reçu de la nature un cœur bon et gai. J'ai aussi composé des vaudevilles.
Tu me prends, je crois, pour un vieux Khlestakov, mais ma destinée est bien plus sérieuse. Par une sorte de décret inexplicable, j'ai pour mission de nier. Pourtant, je suis foncièrement bon et inapte à la négation.
Non, il faut que tu nies. Sans négation, pas de critique. Et que deviendraient les revues sans la critique? Il ne resterait plus qu'un hosanna. Mais pour la vie, cela ne suffit pas. Il faut que cet hosanna passe par le creuset du doute, etc.
D'ailleurs, je ne me mêle pas de tout ça. Ce n'est pas moi qui ai inventé la critique. Je n'en suis pas responsable. J'ai servi de bouc émissaire. On m'a obligé à faire de la critique. Et la vie commença. Mais moi, qui comprends le sel de la comédie, j'aspire au néant.
Non, il faut que tu vives, me réplique-t-on, car sans toi, rien n'existerait. Si tout était raisonnable sur la terre, il ne s'y passerait rien. Sans toi, pas d'événements. Or, il faut des événements.
Je remplis donc ma mission, bien à contre-cœur, pour susciter des événements, et je réalise l'irrationnel, par ordre. Les gens prennent cette comédie au sérieux, malgré tout leur esprit. C'est pour eux une tragédie. Ils souffrent, évidemment. En revanche, ils vivent d'une vie réelle et non imaginaire, car la souffrance, c'est la vie. Sans la souffrance, quel plaisir offrirait-elle? Tout ressemblerait à un tédéum interminable. C'est sain, mais bien ennuyeux. Et moi, je souffre, et pourtant je ne vis pas. Je suis l'X d'une équation inconnue. Je suis le spectre de la vie, qui a perdu la notion des choses et oublie jusqu'à son nom.
Tu ris. Non, tu ne ris pas. Tu te fâches encore, comme toujours.
Il te faudrait toujours de l'esprit. Or, je te le répète, je donnerais toute cette vie sidérale, tous les grades, tous les honneurs, pour m'incarner dans l'âme d'une marchande obèse et faire brûler des cierges à l'église.
Toi non plus, tu ne crois pas en Dieu,
dit Ivan avec un sourire haineux.
Comment dire, si tu parles sérieusement?
Dieu existe-t-il, oui ou non?
Insista Ivan avec colère.
Ah, c'est donc sérieux! Mon cher, Dieu m'est témoin que je n'en sais rien. Je ne puis mieux dire.
Non, tu n'existes pas. Tu es moi-même et rien de plus. Tu n'es qu'une chimère.
Si tu veux, j'ai la même philosophie que toi, c'est vrai. Je pense, donc je suis. Voilà ce qui est sûr. Quant au reste, quant à tous ces mondes, Dieu et Satan lui-même, tout cela ne m'est pas prouvé. Ont-ils une existence propre ou est-ce seulement une émanation de moi? Le développement successif de mon moi, qui existe temporellement et personnellement.
Je m'arrête, car j'ai l'impression que tu vas me battre.
Tu ferais mieux de me raconter une anecdote.
En voici une, précisément dans le cadre de notre sujet, c'est-à-dire plutôt une légende qu'une anecdote.
Tu me reproches mon incrédulité. Mais, mon cher, il n'y a pas que moi comme ça. Chez nous, tous sont maintenant troublés à cause de vos sciences. Tant qu'il y avait les atomes, les cinq sens, les quatre éléments, cela allait encore. Les atomes étaient déjà connus dans l'Antiquité. Mais vous avez découvert la molécule chimique, le protoplasme, et le diable sait encore quoi. En apprenant cela, les nôtres ont baissé la queue. Ce fut le gâchis. La superstition, les cancans sévirent. Nous en avons autant que vous. Même un peu plus. Enfin, la délation. Il y a aussi chez nous une section où l'on reçoit certains renseignements. Eh bien, cette légende de notre Moyen-Âge, du nôtre, non pas du vôtre, ne trouve aucune créance, sauf auprès des grosses marchandes. Les nôtres, pas les vôtres. Tout ce qui existe chez vous existe aussi chez nous. Je te révèle ce mystère par amitié, bien que ce soit défendu. Cette légende parle donc du paradis. Il y avait sur la terre un certain philosophe qui niait tout, les lois, la conscience, la foi, surtout la vie future. Il mourut en pensant entrer dans les ténèbres du néant, et le voilà en présence de la vie future. Il s'étonne, il s'indigne. Cela, dit-il, est contraire à mes convictions. Et il fut condamné pour cela. Excuse-moi, je te rapporte cette légende comme on me l'a contée.
Donc, il fut condamné à parcourir, dans les ténèbres, un quadrillion de kilomètres. Car nous comptons aussi en kilomètres maintenant. Et quand il aura achevé son quadrillion, les portes du paradis s'ouvriront devant lui, et tout lui sera pardonné.
Quel tourment y a-t-il dans l'autre monde, outre le quadrillion ?
Demanda Ivan avec une étrange animation.
Quel tourment ! Ah, ne m'en parle pas. Autrefois, il y en avait pour tous les goûts. À présent, on a de plus en plus recours au système des tortures morales, aux remords de conscience et autres fariboles. C'est à votre adoucissement des mœurs que nous le devons. Et qui en profite ? Seulement ceux qui n'ont pas de conscience, car ils se moquent des remords. En revanche, les gens convenables, qui ont conservé le sentiment de l'honneur, souffrent. Voilà bien les réformes opérées sur un terrain mal préparé et copiées d'institutions étrangères. Elles sont déplorables. Le feu d'autrefois valait mieux. Le condamné au quadrillion regarde donc autour de lui, puis se couche en travers de la route. Je ne marche pas. Par principe, je refuse. Prends l'âme d'un athée russe éclairé et mêle-la à celle du prophète Jonas, qui bouda 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'une baleine. Tu obtiendras notre penseur récalcitrant. Sur quoi s'est-il étendu ?
Il y avait sûrement de quoi s'étendre. Tu ne ris pas ?
Bravo ! S'écria Ivan avec la même animation. Il écoutait maintenant avec une curiosité inattendue. « Eh bien, il est toujours couché ?»«
Mais non, au bout de 1000 ans, il se leva et marcha. »«
Quel âne !»
Ivan eut un rire nerveux et se mit à réfléchir. « N'est-ce pas la même chose de rester couché éternellement ou de marcher un quadrillion de verstes ? Mais cela fait 1 billion d'années !»«
Et même bien davantage. S'il y avait ici un crayon et du papier, on pourrait calculer. »
Il est arrivé depuis longtemps, et c'est là que commence l'anecdote.
Comment ? Mais où a-t-il pris 1 billion d'années ?
Tu penses toujours à notre Terre actuelle. La Terre s'est reproduite peut-être 1 million de fois. Elle s'est gelée, fendue, désagrégée, puis décomposée dans ses éléments, et de nouveau les eaux la recouvrirent. Ensuite, ce fut de nouveau une comète, puis un soleil, d'où sortit le globe. Ce cycle se répète peut-être 1 infinité de fois, sous la même forme, jusqu'au moindre détail. C'est mortellement ennuyeux.
Eh bien, qu'arriva-t-il lorsqu'il eut achevé ?
Dès qu'il fut entré au paradis, 2 secondes, montre en main, ne s'étaient pas écoulées, bien que sa montre, à mon avis, ait dû se décomposer en ses éléments durant le voyage. Et il s'écriait déjà que, pour ces 2 secondes, on pouvait faire non seulement 1 quadrillion de kilomètres, mais 1 quadrillion de quadrillions, à la 1/4000e puissance. Bref, il chanta Hosanna. Il exagéra même, au point que des penseurs plus dignes refusèrent de lui tendre la main les premiers temps. Il était devenu trop brusquement conservateur. C'est le tempérament russe. Je te le répète, c'est une légende. Voilà les idées qui ont cours chez nous sur ces matières.
« Je te tiens !»
s'écria Ivan avec une joie presque enfantine, comme si la mémoire lui revenait.
« C'est moi-même qui ai inventé cette anecdote du 4 millions d'années. J'avais alors 17 ans, j'étais au collège. Je l'ai raconté à un de mes camarades, Korovkin, à Moscou. Cette anecdote est très caractéristique, je l'avais oubliée. Mais je me la suis rappelée inconsciemment, ce n'est pas toi qui l'as dite. » C'est ainsi qu'une foule de choses vous reviennent quand on va au supplice, ou quand on rêve. Eh bien, tu n'es qu'un rêve.
La violence avec laquelle tu me nies m'assure que malgré tout tu crois en moi, dit le gentleman gaiement.
Pas du tout, je n'y crois pas pour 1/100.
Mais bien pour 1/1000. Les doses homéopathiques sont peut-être les plus fortes. Avoue que tu crois en moi. « Au moins pour 1/10000. »«
Non !» cria Ivan irrité. « D'ailleurs, je voudrais bien croire en toi. »«
Hé hé, voilà un aveu. Mais je suis bon, je vais t'aider. C'est moi qui te tiens. Je t'ai conté à dessein cette anecdote, pour te détromper définitivement à mon égard. »«
Tu mens ! Le but de ton apparition est de me convaincre de ton existence. »
« Précisément !» Mais les hésitations, l'inquiétude, le conflit de la foi et du doute constituent parfois une telle souffrance pour un homme scrupuleux comme toi, que mieux vaut se pendre. Sachant que tu crois un peu en moi, je t'ai raconté cette anecdote pour te livrer définitivement au doute. Je te mène entre la foi et l'incrédulité alternativement, non sans but. C'est une nouvelle méthode. Je te connais, quand tu cesseras tout à fait de croire en moi, tu te mettras à m'assurer que je ne suis pas un rêve, que j'existe vraiment. Alors mon but sera atteint. Or, mon but est noble. Je déposerai en toi un minuscule germe de foi qui donnera naissance à un chêne, un si grand chêne qu'il sera ton refuge et que tu voudras te faire anachorète, car c'est ton vif désir en secret. Tu te nourriras de sauterelles, tu feras ton salut dans le désert. Alors, misérable, c'est pour mon salut que tu travailles? Il faut bien faire une fois une bonne œuvre. Tu te fâches à ce que je vois. Bouffon, as-tu jamais tenté ceux qui se nourrissent de sauterelles, pris 17 ans au désert et sont couverts de mousse? Mon cher, je n'ai fait que cela. On oublie le monde entier pour une pareille âme, car c'est un joyau de prix. Une étoile qui vaut parfois toute une constellation. Nous avons aussi notre arithmétique. La victoire est précieuse. Or, certains solitaires, ma foi, te valent au point de vue intellectuel, bien que tu ne le croies pas. Ils peuvent contempler simultanément de tels abîmes de foi et de doute qu'en vérité il s'en faut d'un cheveu qu'ils succombent. Eh bien, tu te retirais le nez long ? Mon ami, remarqua sentencieusement le visiteur. Mieux vaut avoir le nez long que pas de nez du tout, comme le disait encore récemment un marquis malade. Il devait être soigné par un spécialiste. En se confessant à un père jésuite, j'y assistais, c'était charmant. Rendez-moi mon nez, disait-il en se frappant la poitrine. Mon fils, insinuait le père, tout est réglé par les décrets insondables de la Providence. Un mal apparent amène parfois un bien caché. Si un sort cruel vous a privé de votre nez, vous y gagnez, en ce que personne désormais n'osera vous dire que vous l'avez trop long. « Mon père, ce n'est pas une consolation !» s'écria-t-il désespéré. « Je serais au contraire enchanté d'avoir chaque jour le nez long, pourvu qu'il soit à sa place. » « Mon fils, dit le père en soupirant, on ne peut demander tous les biens à la fois, et c'est déjà murmurer contre la Providence, qui même ainsi ne vous a pas oublié. Car si vous criez comme tout à l'heure, que vous seriez heureux toute votre vie d'avoir le nez long, votre souhait a été exaucé indirectement, car ayant perdu votre nez, par le fait même, vous avez le nez long. « Fille, que c'est bête !» s'écria Ivan. Mon ami, je voulais te faire rire. Je te jure que telle est la casuistique des jésuites et que tout ceci est rigoureusement vrai. Ce cas est récent et m'a causé bien des soucis. Rentré chez lui, le malheureux jeune homme se brûla la cervelle dans la nuit. Je ne l'ai pas quitté jusqu'au dernier moment. Quant aux confessionnaux des jésuites, c'est vraiment mon plus agréable divertissement aux heures de tristesse. Voici une historiette de ces jours derniers. Une jeune Normande, une blonde de 20 ans, arrive chez un vieux père. Une beauté, un corps à faire venir l'eau à la bouche. Elle s'agenouille, murmure son péché à travers le grillage. « Comment, ma fille, vous voilà retombée ? Oh, Sancta Maria ! Qu'entends-je ? C'est déjà un autre. Jusqu'à quand cela durera-t-il ? N'avez-vous pas honte ?» « Ah, mon père !» répond la pécheresse éplorée. « Ça lui a fait tant de plaisir, et à moi si peu de peine !» Considère cette réponse. C'est le cri de la nature elle-même. Cela vaut mieux que l'innocence. Je lui ai donné l'absolution. Et je me retournai pour m'en aller, quand j'entendis le père lui fixer un rendez-vous pour le soir. Si résistant qu'ait été le vieillard, il avait succombé aussitôt à la tentation. La nature, la vérité ont pris leur revanche. Pourquoi fais-tu la grimace? Te voilà encore fâché? Je ne sais plus que faire pour t'être agréable.
Laisse-moi, tu m'obsèdes comme un cauchemar. »
Gémit Ivan, vaincu par sa vision.
« Tu m'ennuies et tu me tourmentes. Je donnerais beaucoup pour te chasser. »
« Encore un coup, modère tes exigences. N'exige pas de moi le grand et le beau, et tu verras comme nous serons bons amis. » dit le gentleman d'un ton suggestif. « En vérité, tu m'en veux de n'être pas apparu dans une lueur rouge parmi le tonnerre et les éclairs, les ailes roussies, mais de m'être présenté dans une tenue aussi modeste. Tu es froissé dans tes sentiments esthétiques d'abord, ensuite dans ton orgueil. Un si grand homme, recevoir la visite d'un diable aussi banal, il y a en toi cette fibre romantique raillée par Bielinski. Que faire, jeune homme? Tout à l'heure, au moment de venir chez toi, j'ai pensé, pour plaisanter, prendre l'apparence d'un conseiller d'État en retraite, décoré des ordres du lion et du soleil. Mais je n'ai pas osé, car tu m'aurais battu. Comment mettre sur ma poitrine les plaques du lion et du soleil au lieu de l'étoile polaire ou de Sirius? Et tu insistes sur ma bêtise. Mon Dieu, je ne prétends pas avoir ton intelligence. Méphistophélès, en apparaissant à Faust, affirme qu'il veut le mal et ne fait que le bien. Libre à lui, moi c'est le contraire. Je suis peut-être le seul être au monde qui aime la vérité et veuille sincèrement le bien. J'étais là quand le Verbe crucifié monta au ciel, emportant l'âme du baron. J'ai entendu les acclamations joyeuses des chérubins chantant Hosanna et les hymnes des séraphins qui faisaient trembler l'univers. Eh bien, je le jure par ce qu'il y a de plus sacré. J'aurais voulu me joindre au cœur et crier aussi Hosanna. Les paroles allaient sortir de ma poitrine. Tu sais que je suis fort sensible et impressionnable au point de vue esthétique. Mais le bon sens, la plus malheureuse de mes facultés, m'a retenu dans les justes limites et j'ai laissé passer l'heure propice. Car, pensais-je alors, qu'adviendrait-il si je chantais Hosanna? Tout s'éteindrait dans le monde, il ne se passerait plus rien. Voilà comment les devoirs de ma charge et ma position sociale m'ont obligé à repousser une impulsion généreuse et à rester dans l'infamie. D'autres s'arrogent tout l'honneur du bien. On ne me laisse que l'infamie. Mais je n'envie pas l'honneur de vivre aux dépens d'autrui. Je ne suis pas ambitieux. Pourquoi, parmi toutes les créatures, suis-je seul voué aux malédictions des honnêtes gens, et même aux coups de botte? Car en m'incarnant, je dois subir parfois des conséquences de ce genre. Il y a là un mystère, mais à aucun prix on ne veut me le révéler, de peur que je n'entonne Hosanna. Et qu'aussitôt les imperfections nécessaires disparaissant, la raison ne règne dans le monde entier. Ce serait naturellement la fin de tout, même des journaux et des revues, car qui s'abonnerait? Je sais bien que finalement je me réconcilierai. Je ferai moi aussi mon quatrillion et je connaîtrai le secret. Mais en attendant, je boude et je remplis à contre-cœur ma mission. Perdre des milliers d'hommes pour en sauver un seul. Combien, par exemple, a-t-il fallu perdre d'âme et salir de réputation pour obtenir un seul juste, Job, dont on s'est servi autrefois pour m'attraper si méchamment? Non, tant que le secret ne sera pas révélé, il existe pour moi deux vérités. Celle de là-bas, la leur, que j'ignore totalement, et l'autre, la mienne. Reste à voir quelle est la plus pure. Tu dors ? Je pense bien, gémit Ivan. Tout ce qu'il y a de bête en moi, tout ce que j'ai depuis longtemps digéré et éliminé comme une ordure, tu me la portes comme une nouveauté. Alors, je n'ai pas réussi. Moi qui pensais te charmer par mon éloquence. Cette Hosanna dans le ciel, vraiment, ce n'était pas mal. Puis ce ton sarcastique à la haine, n'est-ce pas? Non. Je n'ai jamais eu cet esprit de laquais. Comment mon âme a-t-elle pu produire un faquin de ton espèce? Mon ami, je connais un charmant jeune homme russe, amateur de littérature et d'art. Il est l'auteur d'un poème qui promet, intitulé « Le grand inquisiteur ». C'est uniquement lui que j'avais en vue. « Je te défends de parler du grand inquisiteur !» s'écria Ivan, rouge de honte. Et le cataclysme géologique, te rappelles-tu? Voilà un poème.
Tais-toi ou je te tue.
Me tuer? Non, il faut que je m'explique d'abord. Je suis venue pour m'offrir ce plaisir. Oh, que j'aime les rêves de mes jeunes amis, fougueux, assoiffés de vie. Là, vivent des gens nouveaux, disais-tu au printemps dernier, quand tu te préparais à venir ici. Ils veulent tout détruire et retourner à l'anthropophagie. Les sots, ils ne m'ont pas consulté. À mon avis, il ne faut rien détruire, si ce n'est l'idée de Dieu dans l'esprit de l'homme. Voilà par où il faut commencer. Oh, les aveugles, ils ne comprennent rien. Une fois que l'humanité entière professera l'athéisme, et je crois que cette époque, à l'instar des époques géologiques, arrivera à son heure. Alors, d'elle-même, sans anthropophagie, l'ancienne conception du monde disparaîtra, et surtout l'ancienne morale. Les hommes s'uniront pour retirer de la vie toutes les jouissances possibles, mais dans ce monde seulement. L'esprit humain s'élèvera jusqu'à un orgueil titanique, et ce sera l'humanité déifiée, triomphant sans cesse et sans limite de la nature par la science et l'énergie. L'homme, par cela même, éprouvera constamment une joie si intense qu'elle remplacera pour lui les espérances des joies célestes. Chacun saura qu'il est mortel, sans espoir de résurrection, et se résignera à la mort avec une fierté tranquille, comme un dieu. Par fierté, il s'abstiendra de murmurer contre la brièveté de la vie, et il aimera ses frères d'un amour désintéressé. L'amour ne procurera que des jouissances brèves, mais le sentiment même de sa brièveté en renforcera l'intensité, autant que jadis elle se disséminait dans les espérances d'un amour éternel, outre-tombe. Et ainsi de suite. C'est charmant. Yvan se bouchait les oreilles, regardait à terre, tremblait de tout le corps. La voix poursuivit. « La question consiste en ceci, songeait mon jeune penseur. Est-il possible que cette époque vienne jamais ? Dans l'affirmative, tout est décidé. L'humanité s'organisera définitivement. Mais comme, vu la bêtise invétérée de l'espèce humaine, cela ne sera peut-être pas encore réalisé dans 1000 ans. Il est permis à tout individu conscient de la vérité de régler sa vie comme il lui plaît, selon les principes nouveaux. Dans ce sens, tout lui est permis. Plus encore, même si cette époque ne doit jamais arriver, comme Dieu et l'immortalité n'existent pas, il est permis à l'homme nouveau de devenir un homme-dieu. Fût-il seul au monde à vivre ainsi ? Il pourrait désormais, d'un cœur léger, s'affranchir des règles de la morale traditionnelle auxquelles l'homme était assujetti comme un esclave. Pour Dieu, il n'existe pas de loi. Partout où Dieu se trouve, il est à sa place. Partout où je me trouverai, ce sera la place première. Tout est permis, un point c'est tout. Tout ça est très gentil, seulement si l'on veut tricher, à quoi bon la sanction de la vérité ? Mais notre Russe contemporain est ainsi fait. Il ne se décidera pas à tricher sans cette sanction, tant il aime la vérité. Entraîné par son éloquence, le visiteur élevait de plus en plus la voix et considérait avec ironie le maître de la maison. Mais il ne put achever. Yvan saisit tout à coup un verre sur la table et le lança sur l'orateur. « Ah, mais c'est bête, enfin !» s'exclama l'autre en se levant vivement et en essuyant les gouttes de thé sur ses habits. « Il s'est souvenu de l'encrier de Luther. Il veut voir en moi un songe et lance des verres à un fantôme. C'est digne d'une femme. Je me doutais bien que tu faisais semblant de te boucher les oreilles et que tu écoutais. » À ce moment, on frappa à la fenêtre avec insistance. Ivan Fiodorovitch se leva. « Tu entends ? Ouvre donc ! » s'écria le visiteur. « C'est ton frère Alyosha qui vient t'annoncer une nouvelle des plus inattendues, je t'assure. »«
Tais-toi, imposteur ! Je savais avant toi que c'est Alyosha. Je le pressentais. Et certes, il ne vient pas pour rien. Il apporte évidemment une nouvelle !» s'écria Ivan avec exaltation.
« Ouvre donc, ouvre-lui, il fait une tourmente de neige, et c'est ton frère. Monsieur, sait-il le temps qu'il fait? C'est à ne pas mettre un chien dehors. » On continuait de frapper. Ivan voulait courir à la fenêtre, mais se sentit comme paralysé. Il s'efforçait de briser les liens qui le retenaient, mais en vain. On frappait de plus en plus fort. Enfin, les liens se rompirent et Ivan Fiodorovitch se releva. Les deux bougies achevaient de se consumer. Le verre qu'il avait lancé à son hôte était sur la table. Sur le divan, personne. Les coups à la fenêtre persistaient, mais bien moins forts qu'il ne lui avait semblé, et même fort discrets.
« Ce n'est pas un rêve. Non, je jure que ce n'était pas un rêve. Tout ça vient d'arriver. »
Ivan courut à la fenêtre et ouvrit le vasistas.
« Alyosha, je t'avais défendu de venir »
cria-t-il, rageur, à son frère.
« En deux mots, que veux-tu ? En deux mots, tu m'entends ?»«
Smerdiakov s'est pendu il y a une heure, » dit Alyosha.
« Monte le perron, je vais t'ouvrir, »
dit Ivan, qui alla ouvrir la porte. Chapitre 10. C'est lui qui l'a dit. Alyosha apprit à Ivan qu'une heure auparavant, Marie Kondratievna était venue chez lui pour l'informer que Smerdiakov venait de se suicider.
« J'entre dans sa chambre pour emporter le samovar. Il était pendu à un clou. »
Comme Alyosha lui demandait si elle avait fait sa déclaration à qui de droit, elle répondit qu'elle était venue tout droit chez lui, en courant. Elle tremblait comme une feuille. L'ayant accompagnée chez elle, Alyosha y avait trouvé Smerdiakov encore pendu. Sur la table, un papier avec ces mots. « Je mets fin à mes jours volontairement. Qu'on n'accuse personne de ma mort. » Alyosha, laissant ce billet sur la table, se rendit chez Lispravnik. Et de là, « Chez toi, » conclut-il en regardant fixement Ivan, dont l'expression l'intriguait.
« Frère, » dit-il soudain, « tu dois être très malade. Tu me regardes sans avoir l'air de comprendre ce que je te dis. » « C'est bien d'être venu, »
dit Ivan d'un air préoccupé et sans prendre garde à l'exclamation d'Alyosha.
« Je savais qu'il s'était pendu. »«
Par qui, le savais-tu ? » ?»«
Je ne sais pas par qui, mais je le savais. »« Le savais-je ? » ?»«
Oui,
il me l'a dit. Il vient de me le dire. »
Ivan se tenait au milieu de la chambre, l'air toujours absorbé, regardant à terre.
« Qui, lui ?»
demanda Alyosha avec un coup d'œil involontaire autour de lui.
Il s'est esquivé.
Ivan releva la tête et sourit doucement.
« Il a eu peur de toi, la colombe. Tu es un pur chérubin. Dmitri t'appelle ainsi, chérubin. Le cri formidable des séraphins. Qu'est-ce qu'un séraphin ? Peut-être toute une constellation, et cette constellation n'est peut-être qu'une molécule chimique. » « Il existe la constellation du lion et du soleil, sais-tu ?»«
Frère, assieds-toi, » dit Alyosha effrayé.
« Assieds-toi sur le divan, je t'en supplie. Tu as le délire. Appuie-toi sur le coussin, comme ça. Veux-tu une serviette mouillée sur la tête ? Ça te soulagerait. » « Donne la serviette qui est sur la chaise. Je l'ai jetée tout à l'heure. »
« Non, elle n'y est pas. Ne t'inquiète pas, la voici. » dit Alyosha en trouvant dans un coin, près du lavabo, une serviette propre, encore pliée. Ivan l'examina d'un regard étrange. La mémoire parut lui revenir.
« Attends, » dit-il en se levant. « Il y a une heure, je me suis appliqué sur la tête, cette même serviette mouillée, puis je l'ai jetée là. Comment peut-elle être sèche ? Il n'y en avait pas d'autre. »
« Tu t'es appliqué cette serviette sur la tête ?
« Mais oui, et j'ai marché à travers la chambre, il y a une heure.
Pourquoi les bougies sont-elles consumées ?
Quelle heure est-il ?
Bientôt minuit. »«
Non, non, non !» s'écria Ivan. « Ce n'était pas un rêve, il était ici, sur ce divan. Quand tu as frappé à la fenêtre, je lui ai lancé un verre, celui-ci. Attends un peu, ce n'est pas la première fois. Mais ce ne sont pas des rêves, c'est réel. Je marche, je parle, je vois. » tout en dormant. Mais il était ici, sur ce divan. Il est très bête, Alyosha, très bête. »
Ivan se mit à rire et à marcher dans la chambre.
« Qui est bête ? De qui parles-tu, frère ? »
demanda anxieusement Alyosha.
Du diable! Il vient me voir. Il est venu deux ou trois fois. Il me taquine, prétendant que je lui en veux de n'être que le diable, au lieu de Satan aux ailes roussies, entouré de tonnerres et d'éclairs. Ce n'est qu'un imposteur, un méchant diable de basse classe. Il va au bain. En le déshabillant, on lui trouverait certainement une queue fauve, longue d'une aune, lisse comme celle d'un chien danois.
Alyosha, tu es transi, tu as reçu la neige. Veux-tu du thé?
Il est froid, je vais faire préparer le samovar.
C'est à ne pas mettre un chien dehors.
Alyosha courut au lavabo, mouilla la serviette, persuada Ivan de se rasseoir et la lui appliqua sur la tête. Il s'assit à côté de lui.
« Qu'est-ce que tu me disais tantôt de Lise ?» reprit Ivan.
Il devenait fort loquace.
« Lise me plaît, je t'ai mal parlé d'elle. C'est faux, elle me plaît. J'ai peur demain, pour Katia surtout, pour l'avenir. Elle m'abandonnera demain et me foulera aux pieds. Elle croit que je perds Mitya par jalousie à cause d'elle. Oui, elle croit cela. Mais non, demain, ce sera la croix et non la potence. Non, je ne me pendrai pas.
Sais-tu que je pourrais jamais me tuer, Alyosha?
Est-ce par lâcheté? Je ne suis pas un lâche. C'est par amour de la vie. Comment savais-je que Smerdiakov s'était pendu?
Oui, c'est lui qui me l'a dit.
Et tu es persuadé que quelqu'un est venu ici?
Sur ce divan, dans le coin. Tu l'auras chassé.
Oui, c'est toi qui l'as mis en fuite. Il a disparu à ton arrivée.
J'aime ton visage, Alyosha. Le savais-tu?
Mais lui, c'est moi, Alyosha, moi-même, tout ce qu'il y a en moi de bas, de vil, de méprisable.
Oui, je suis un romantique, il l'a remarqué.
Pourtant, c'est une calomnie. Il est affreusement bête, mais c'est par là qu'il réussit. Il est rusé, bestialement rusé. Il sait très bien me pousser à bout. Il me narguait en disant que je crois en lui. C'est ainsi qu'il m'a forcé à l'écouter. Il m'a mystifié comme un gamin. D'ailleurs, il m'a dit sur mon compte bien des vérités, des choses que je ne me serais jamais dites.
Sais-tu, Alyosha, sais-tu, ajouta Ivan sur un ton confidentiel,
je voudrais bien que ce fût réellement lui et non pas moi.
Il t'a fatigué, dit Alyosha en regardant son frère avec compassion.
Il m'a agacé, et fort adroitement.
La conscience, qu'est-ce que cela? C'est moi qui l'ai inventé. Pourquoi a-t-on des remords? Par habitude, l'habitude qu'a l'humanité depuis 7000 ans. Défaisons-nous de l'habitude et nous serons des dieux. C'est lui qui l'a dit.
Mais pas toi, pas toi, s'écria malgré lui Alyosha avec un lumineux regard.
Eh bien, laisse-le, oublie-le donc. Qu'il emporte avec lui tout ce que tu maudis maintenant et qu'il ne revienne plus.
Il est méchant. Il s'est moqué de moi. C'est un insolent, Alyosha, dit Ivan, frémissant au souvenir de l'offense.
Il m'a calomnié à maint égard. Il m'a calomnié en face.
Oh, tu vas accomplir une noble action. Tu déclareras que c'est toi l'assassin responsable, que le valet a tué ton père à ton instigation.
Frère, contiens-toi. Ce n'est pas toi qui as tué. Ce n'est pas vrai.
C'est lui qui le dit, et il le sait.
Tu vas accomplir une action vertueuse, et pourtant tu ne crois pas à la vertu. Voilà ce qui t'irrite et te tourmente.
Voilà ce qu'il m'a dit, et il s'y connaît.
C'est toi qui le dis, ce n'est pas lui, tu parles dans le délire.
Non, il sait ce qu'il dit. C'est par orgueil que tu vas dire « C'est moi qui ai tué. Pourquoi êtes-vous saisi d'effroi? Vous mentez. Je méprise votre opinion. Je me moque de votre effroi. » Il disait encore « Sais-tu, tu veux qu'on t'admire. C'est un criminel, un assassin, dira-t-on. Mais quel noble sentiment! Pour sauver son frère, il s'est accusé. »
« Mais c'est faux, Alyosha !» s'écria Ivan, les yeux étincelants.
« Je ne veux pas de l'admiration des rustres. Je te jure qu'il a menti. C'est pour ça que je lui ai lancé un verre qui s'est brisé sur son museau. »«
Frère, calme-toi, cesse. »«
Non, c'est un savant tortionnaire et cruel !» poursuivit Ivan qui n'avait pas entendu. « Je savais bien pourquoi il venait. »«
Soit,
disait-il. Tu voulais aller par orgueil, mais en gardant l'espoir que Smerdiakov serait démasqué et envoyé au bagne, qu'on acquitterait Mitya et qu'on te condamnerait moralement seulement. Tu entends? Il a ri à cet endroit. Tandis que d'autres t'admireraient. Mais Smerdiakov est mort. Qui te croira maintenant en justice? Toi seul. Pourtant tu y vas. Tu as décidé d'y aller. Dans quel dessein après cela?
C'est bizarre, Alyosha, je ne puis supporter de pareilles questions. Qui a l'audace de me les poser?
Frère, interrompit Alyosha, glacé de peur, mais espérant toujours ramener Ivan à la raison.
Comment a-t-il pu te parler de la mort de Smerdiakov avant mon arrivée, alors que personne ne la connaissait et n'avait eu le temps de l'apprendre?
Il m'en a parlé, dit Ivan d'un ton tranchant. Il n'a même parlé que de cela, si tu veux.
Si encore tu croyais à la vertu, on ne me croira pas, n'importe, j'agis par principe. Mais tu n'es qu'un pourceau, comme Fiodor Pavlovitch, tu n'as que faire de la vertu. Pourquoi te traîner là-bas, si ton sacrifice est inutile? Tu n'en sais rien, et tu donnerais beaucoup pour le savoir. Soi-disant, tu t'es décidé. Tu passeras la nuit à peser le pour et le contre. Pourtant, tu iras, tu le sais bien. Tu sais que, quelle que soit ta résolution, la décision ne dépend pas de toi. Tu iras parce que tu n'oseras pas faire autrement. Et pourquoi n'oseras-tu pas? Devine toi-même, c'est une énigme.
Là-dessus, il est parti quand tu arrivais. Il m'a traité de lâche, Alyosha.
Le mot de l'énigme, c'est que je suis un lâche. Smerdiakov en a dit autant. Il faut le tuer. Katia me méprise, je le vois depuis un mois. Lise commence à me mépriser. Tu iras pour qu'on t'admire. C'est un abominable mensonge. Et toi aussi tu me méprises, Alyosha. Je te déteste de nouveau. Et je hais aussi le monstre, qu'il pourrisse au bagne. Il a chanté un hymne. J'irai demain leur cracher au visage à tous.
Ivan se leva avec fureur, arracha la serviette, se remit à marcher dans la chambre. Alyosha se rappela ses récentes paroles.
« Il me semble dormir éveillé. Je vais, je parle, je vois, et pourtant je dors. »
C'est bien cela. Il n'osait le quitter pour aller chercher un médecin, n'ayant personne à qui le confier. Peu à peu, Ivan se mit à déraisonner tout à fait. Il parlait toujours, mais ses propos étaient incohérents. Il articulait mal les mots. Tout à coup, il chancela. Mais Alyosha put le soutenir. Il le déshabilla tant bien que mal et le mit au lit. Le malade tomba dans un profond sommeil, la respiration régulière. Alyosha le veilla encore 2 heures, puis il prit un oreiller et s'allongea sur le divan, sans se dévêtir. Avant de s'endormir, il pria pour ses frères. Il commençait à comprendre la maladie d'Ivan. Les tourments d'une résolution fière, une conscience exaltée. Dieu, auquel Ivan ne croyait pas, et sa vérité avaient subjugué le cœur encore rebelle.
Oui, songeait Alyosha, puisque Smerdiakov est mort, personne ne croira Ivan. Néanmoins, il ira déposer. Dieu vaincra, se dit Alyosha avec un doux sourire. Ou Ivan se relèvera à la lumière de la vérité. Ou bien... il succombera dans la haine, en se vengeant de lui-même et des autres pour avoir servi une cause à laquelle il ne croyait pas. Ajouta-t-il avec amertume, et il pria de nouveau pour Ivan.